Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin, nous sommes en direct, il est 11h du matin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition dont le vernissage a lieu vendredi et d'un livre de Johanna Desplat-Roger, Le jazz en respect, essai sur une déroute philosophique qui est paru chez M Édition, si je ne me trompe pas, c'est bien ça,
MF Édition.
Et donc je suis donc avec Frédéric Gournay, Clotilde Salmon qui va nous parler de l'exposition et l'auteur du livre, Johanna Desplat-Roger. Et donc, Clotilde, tu es venue nous raconter ce qui va se passer vendredi à 18h à rue des Haies, au 73 rue des Haies.
À la galerie Plateforme. Je suis venue vous présenter l'exposition pour tous les gens qui ne connaissent pas le principe des expositions de Laurent Kenéen, qui est le commissaire d'exposition. Et puis cette exposition collective qui rassemble 50 artistes, ce qui est pas mal, et qui s'appelle Amour au pluriel. C'est la 4e édition. Et en fait, le principe, c'est que Laurent, il lance un appel à candidature qui est libre, puisque en fait, lui, il demande juste un visuel, une proposition artistique visuelle, pas de CV. Pas de site, de texte, de présentation. C'est juste notre proposition visuelle sur l'amour. Et puis, donc là, il a fait un appel à candidature pour l'amour et la mort. Et il a reçu 500 propositions, ce qui est quand même énorme. Et donc, il a fait une sélection parmi ces 500 propositions. Donc, c'est finalement le regard de 50 artistes sur l'amour, résumé par le regard de Laurent Kenéen, finalement. Donc, cette mise en abîme-là, elle est intéressante. Et puis, il y a quelque chose, quand même, de vraiment contemporain, parce que c'est 50 artistes institutionnels ou non. Il y en a qui sont moitié-moitié, d'autres qui exposent peu, d'autres qui exposent pas, d'autres qui tournent. Donc dans ce sens-là, c'est aussi intéressant. Et puis, c'est multimédia aussi. Évidemment, c'est plutôt des petits formats, puisque la galerie plateforme, elle est un peu petite, il y a 50 personnes. Donc il faut faire tenir tout le monde ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les œuvres qui dialoguent à l'intérieur de son regard à lui, quoi. Et à la fois, on retrouve, on n'est pas complètement dépaysé par rapport à ce que je peux voir en galerie ou dans certaines expos plus grosses. Et en même temps, c'est très personnel. Même moi, par exemple, j'ai déjà été sélectionnée pour une autre exposition de lui, pour une exposition érotique. Et le moment que je préfère, en dehors du moment où on a la réponse, oui, t'es sélectionnée, voilà, évidemment, on est content. Mais c'est quand je vais déposer les œuvres et que je vois en vrai ce que les autres ils ont fait, quoi. Et ça, c'est toujours surprenant, intéressant, on n'est pas toujours d'accord, ou des fois on est surpris, on dit « ouais, ça c'est super, c'est encore mieux qu'en vrai ». Donc ça déjà, moi je trouve que c'est, en tant que public, je trouve ça vachement rafraîchissant et enrichissant. Et puis c'est une manière de savoir ce que les gens ils ont un petit peu dans la tête. C'est l'art du temps sans que ce soit jetable, parce que c'est ça aussi qui est malin dans un thème aussi universel et aussi large. Au final, ça permet d'affiner les propositions et les regards, quoi. C'est là où c'est assez malin. Et puis, c'est une exposition où il y a une grosse majorité de femmes. Alors, pourquoi personne ne le sait vraiment. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a plus de femmes qui postulent? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont choisies. C'est vraiment une majorité.
Voilà, donc 73 rue des Haies, station de métro Buzenwald. Le bus 57 y va, c'est un bus qui vient chez moi. C'est juste après Nation, ces deux stations, il y a Avon et puis Buzenwald. Donc c'est, on peut aller depuis Nation à pied à cet endroit s'il ne pleut pas assez rapidement. Et on vous attend, venez nombreux. C'est en fait, je crois que c'est le 48e salon que fait Laurent. Et il fait œuvre très utile, il décloisonne, il déhiérarchise. Et il y a un fort désir quand même des gens de montrer ce qu'ils font. Et nous sommes très nombreux à faire des choses dans tous les domaines et il y a un manque visiblement. Bon là, c'est l'absence de préjugés qui frappe, ça, c'est l'ouverture.
Moi, ça canalise vraiment une proposition artistique originale.
Et polyvalente.
Et polyvalente.
Et comme tu dis, alors, je n'avais pas remarqué, mais beaucoup de femmes, donc c'est un phénomène d'époque. Quoi. Elle se désinhibe aussi peu. On aurait dû lui demander s'il y avait plus de candidates. On lui demandera pour la prochaine fois s'il y a plus de candidates femmes que d'hommes, ou on ne sait pas.
Ouais, peut-être que c'est aussi des œuvres qui dialoguent plus. Entre elles ou...
Le mot amour, tu penses? Il y aura plus d'hommes dans l'expo sur la mort. Non, parce il faisait deux salons en même temps et ceux qui ont été pris pour amour ne seront pas pris pour la mort vu qu'il a de nombreuses candidatures et vice-versa.
Ouais, puis ce qui est quand même assez honnête de sa part. Enfin, c'est bien, ça permet de montrer
ça fait plus d'artistes. Ça fait plus d'élus. Écoute, merci. On arrête là, si tu veux bien.
D'accord, Yves, on arrête là.
Mais si brusquement il te vient une idée, lève les doigts, on te donnera la parole. À toi, Frédéric.
Bonjour Yves, merci de nous recevoir à Radio Aligre. Nous sommes avec Johanna Desplat-Roger aujourd'hui pour un excellent bouquin qu'elle vient de sortir, enfin qui est sorti au mois d'octobre, je crois, qui s'appelle « Le jazz en respect, essai sur une déroute philosophique ». Donc c'est un livre passionnant, il faut absolument le lire si on aime le jazz, si on est passionné de jazz, parce qu'on y apprend plein de choses et c'est très intéressant. Alors Johanna, je vais un peu te présenter si tu le veux bien. Donc tu es agrégée de philosophie, docteur en esthétique, prof à Condorcet, directrice de programme au Collège international de philosophie, co-présidente de son assemblée collégiale. Alors en dehors du fait de te demander quand est-ce que tu dors, je vais te faire un petit détour biographique, si tu le veux bien, pour expliquer peut-être ce livre. Est-ce que tu pourrais me dire quel a été le premier morceau de musique qui t'a marqué quand tu étais enfant, ou peut-être plus tard, qui t'a fortement marqué, et le premier album que tu as acheté?
Ça, c'est une drôle de question. En fait, mon rapport, alors, notamment au jazz, est venu de la pratique musicale avant de l'écoute elle-même. C'est-à-dire que gamine, moi j'écoutais un peu comme les gamins, c'est-à-dire j'écoutais Michael Jackson, j'étais une fan de Michael Jackson, enfant. Je faisais de la musique classique dans une école municipale.
Quel instrument ?
Je faisais du piano à l'époque, mais je ne savais pas très bien pourquoi j'en faisais. J'en faisais parce que j'avais commencé et que c'était bête d'arrêter. Et par contre, il y a un événement marquant, très marquant dans ce parcours-là, c'est quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a traînée à un concert de Bernard Lubat. Pianiste Bernard Lubat. Alors je dis, elle m'a traînée parce qu'à 16 ans, en général, elle est avec un concert avec sa maman, on n'a pas hyper envie. Et Bernard Lubat, je me souviens vraiment de ce concert parce que le concert, il a mis des balles de ping-pong dans son piano qui était à quart de queue et du coup, il jouait les balles de ping-pong sautaient de partout. Et j'ai découvert comme ça le jazz. Alors mes parents écoutaient un peu de jazz, mais je l'ai découvert en live avec Bernard Lubat. Et il se trouve que c'était un concert au Jam, qui est à la fois une salle de concert et une école de musique de jazz à Montpellier. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que moi j'ai eu cette espèce de découverte du jazz et qui m'a du coup conduite à me renseigner sur cette école de jazz, à m'inscrire et à me mettre au jazz et notamment à changer d'instrument. C'est là que je suis passée du piano à la clarinette et au saxophone soprano. Pourquoi changer d'instrument? Parce que recommencer complètement mon apprentissage. de la musique, en découvrant le jazz, c'était très déprimant. Et je me sentais complètement nulle au piano, alors que j'avais 10 ans de piano dans les pattes. Et donc j'avais cette espèce de besoin de recommencer à zéro. C'était plus simple de recommencer directement un instrument et un style de musique. Voilà. Et ça, ça a été une révélation pour moi, c'est-à-dire que la manière de jouer de la musique en jazz et en clarinette, la manière de cette approche-là qui était de l'improvisation, évidemment, mais de l'écoute surtout, et de non plus lire une partition, ça a été une pure révélation. Et du coup, c'est très curieux quand j'y repense, c'est que j'en ai joué du jazz, pour être très honnête, avant d'en écouter. Parce qu'à cette époque-là, voilà, j'en jouais, ça m'a plu, et c'est... mais j'écoutais toujours, j'étais encore un peu dans mes écoutes d'ado, justement, Michael Jackson et compagnie, les Pink Floyd, voilà, d'accord. Tu vois, tout ça, les trucs, voilà.
Et le premier album que tu as acheté avec ton argent?
Le premier album que j'ai acheté avec mon argent, dis donc, là, comme ça, je peux pas te dire, je m'en souviens même plus.
Bon, c'est pas grave.
Ouais.
Et alors, quelle était l'autre question, l'autre détour biographique, quel était le premier texte de philosophie qui t'a fortement marqué et quel était l'auteur qui t'a un peu révélé cette discipline, ce savoir?
L'auteur qui m'a marqué, là aussi, c'est pas très original, en fait, je crois, c'est Nietzsche. La première lecture que j'ai faite suivie, c'est la généalogie de la morale mm-hmm. de Nietzsche. Ça a été une espèce de vraiment une très très grande lecture pour moi. Alors, c'est pas du tout mon travail philosophique, mm-hmm. ça s'appuie pas sur Nietzsche, mais en tout cas, en termes de révélation philosophique, de puissance de la philosophie, c'était sans doute cette lecture de Nietzsche. Et puis, d'une certaine manière, maintenant que tu poses la question, il y a bien un lien au sens où on sent qu'il y a une pensée musicale très forte, en fait, chez
oui,
Nietzsche.
Oui, c'est un des seuls philosophes qui a autant parlé de musique avec Schopenhauer.
C'est ça.
Parce que sinon, on va l'avoir tout à l'heure, mais c'est un désert, sinon, du côté c'est des ça. Philosophes par rapport à la musique. Donc là, j'en viens à mon petit détour biographique. À quel moment tu t'es rendu compte que le jazz et la philo, ça collait pas?
Très vite. Assez rapidement. Eh bien, ça, c'est quand j'ai commencé à travailler un petit peu dans une optique de recherche. Je suis tombée sur le livre de Christian Béthune, qui s'appelle Adorno et le jazz, analyse d'un déni esthétique, qui est paru en 2003, de tête, je crois. Donc, à peu près au moment où moi, je commençais la philosophie. Et comme, du coup, moi, à ce moment-là, c'est-à-dire à 18 ans, je suis allée en fac de philo à Montpellier. Et en parallèle, donc, c'est là que je faisais mon cursus au JAM, donc cette école de jazz. Et donc, je faisais de la musique. Et puis, c'est vrai que pendant plusieurs années, je faisais autant de philo que de jazz. J'avais un peu l'ambition de dire, je ne vais pas choisir entre les deux, je vais faire les deux. Ça a duré quelques années. Puis, à un moment donné, j'ai dû choisir au moment très concrètement où il fallait passer les concours de philosophie, l'agrégation, où j'ai dû renoncer à la musique. Mais voilà, toujours est-il que je menais les deux. Et du coup, forcément, comme je faisais de la philosophie et du jazz, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il existe. Et je suis tombée sur ce livre de Christian Béthune, qui est très important d'ailleurs dans mon travail, on y reviendra peut-être. Voilà, qui était donc un choc parce que, évidemment, Christian Béthune montrait à quel point Adorno a dit... des horreurs quand même sur le jazz. Voilà. Et ça a été un choc et ça a été une espèce de point de départ, en fait. Hein, de toute façon, chez Adorno, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec le jazz. Et après, il a fallu attendre un peu plus tard, et donc mon travail de thèse, pour que j'explore un peu au-delà d'Adorno et les autres philosophes, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Alors, c'est ce que tu montres très bien dans ton livre, en fait. Donc, il y a ce désert philosophique, cette absence totale de réflexion sur cet art majeur du XXe siècle. Et ma question, avant de passer à Adorno, c'est de savoir, est-ce que tu crois que la philosophie peut quand même essayer de définir le jazz? Est-ce que toi, tu as essayé de le définir? Est-ce que tu crois que c'est possible de donner une définition du jazz?
Alors, ça dépend qui. Très bonne question. C'est qu'effectivement, mon livre commence par une espèce de provocation où je dis, et je crois que je le tiens, et je crois que je continuerai à le tenir, que je ne donnerai pas de définition du jazz. Pourquoi je ne la donnerai pas? Pourquoi je m'y refuse? Non pas parce que c'est forcément impossible, je ne crois pas. Je crois que c'est important de définir les choses. Mais ma position, c'est que ce n'est pas aux philosophes de faire ça. C'est-à-dire qu'une définition du jazz, elle ne peut être que musicale, et donc musicologique, ou historique. Et là-dessus, il y a plein d'ouvrages de référence, de musicologues, d'historiens du jazz, etc., qui tracent les contours de ce que c'est que le jazz. Et moi, je me suis refusée de me mettre dans cette position du philosophe, qui est en position de surplomb, qui surplombe son objet, et qui va arriver derrière tous ces gens qui travaillent sur le jazz, et qui va dire, vous n'avez rien compris, voici la définition qu'on peut en donner. Cette idée que ce n'est pas la philosophie de définir le jazz, finalement, pour moi, elle était presque confirmée par l'ouvrage de Francis Wolff qui s'appelle « Pourquoi la musique ?», que je cite un petit peu dans le texte, qui fait cette opération un peu risquée, c'est-à-dire qui propose une définition qui, moi, me semble très aporétique, c'est-à-dire que, du coup, on se retrouve avec une définition où ce qui fait le jazz, c'est que ça sonne jazz, quoi. Voilà.
Oui, c'est tautologique, en fait.
Oui, c'est ça. C'est tautologique plutôt qu'aporétique. Tu as raison, excuse-moi. Et du coup, je me suis dit, bon, au fond, il y a un gros risque, en fait, de, si on fait du concept, d'analyse conceptuelle, et les philosophes ont fait ça, de définir comme ça conceptuellement, en dehors de l'histoire du jazz et de la musicologie du jazz, eh ben, on risque de produire des définitions tautologiques. Mmh. Voilà. Donc, j'assume cette dérobade de mon livre qui dit « Je ne définirai pas le jazz dans ce livre, c'est pas mon propos ».
D'accord, alors c'est ça qui est étrange, parce qu'en fait on voit qu'il n'y a ni Derrida, ni Foucault, ni Lacoula Barthes, ni Deleuze, ni Bataille n'ont parlé du jazz, alors qu'ils aimaient le jazz, et même certains étaient passionnés de jazz. C'était pas un déni esthétique, c'était une absence de même pas de réflexion. Peut-être qu'ils devaient réfléchir dans leur coin, entre eux peut-être, mais en tout cas ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais pris de parole publique sur le jazz. Donc c'est ça qui est fascinant et qui est déroutant, parce que tu parles de déroute. Alors du coup, on se retrouve avec un grand philosophe qui a parlé du jazz, et c'est Adorno, donc c'est un peu le cœur de ton livre. Hein. Et en fait, quand on lit Adorno sur le jazz, c'est horrible. Pourquoi tu t'es infligé de l'affligeant à ce point? T'es un peu maso, parce que les textes sont terribles.
Oui, ça c'est la première réaction que j'ai eue. Bon, il faut dire que ce n'était pas une position facile pour moi, parce que du coup, ça me mettait en tenaille, je vais le dire très franchement, entre les Adorniens qui voyaient quand même d'un assez mauvais œil le fait que je travaille sur Adorno et le jazz, parce que c'était exhiber les textes les pires, et que quand on aime Adorno, c'est quand même douloureux, en fait, de devoir se confronter à ces textes. Et à l'inverse, j'étais confrontée aux musicologues qui, du coup, font de Adorno une espèce d'épouvantail qu'il ne faudrait absolument pas lire. Et du coup, ça, c'est pareil. J'ai glacé certains musicologues qui, simplement en prononçant Adorno, j'ai l'impression que je parlais du diable. Donc, du coup, oui, j'avais une position qui n'était pas facile. Mais pour moi, non, ce n'est pas du sadomasochisme. Moi, j'ai une vraie fascination pour Adorno, hein, que je défends. Je pense que mon livre, il est adornien. Il est adornien, pas dans le sens où, justement, j'essaye de sauver ce que dit Adorno du jazz, parce que c'est insauvable, tu as raison, les textes sont extrêmement durs, extrêmement injustes, hein, avec le jazz, donc il ne s'agit pas de ça. Mais si tu veux, quelqu'un qui connaît un petit peu Adorno, qui est familiarisé avec sa pensée, eh bien, ça bouleverse, en fait, ce décalage entre la puissance de sa philosophie et ce qu'il dit sur le jazz. Et du coup, ça m'intéressait de faire ça, non pas d'exhiber les textes les pires, mais essayer de les penser en résonance avec les grands textes d'Adorno. Voilà. Parce qu'encore une fois, je reste adornienne. Essayer de comprendre cet échec, pourquoi en fait Adorno est à ce point passé à côté de cette question-là. Voilà. Donc je l'ai fait avec cette optique-là, hein. Pas exhiber encore une fois ce qu'il y a de plus horrible chez Adorno. Alors, pas le sauver non plus, tu vois.
En fait, qu'est-ce qu'il reproche exactement au jazz Adorno? Il faut le dire d'abord, il en écoute très tôt. Parce que ses premiers écrits, c'est des années 30. Donc, dès les années 20, je pense qu'il en écoute. Et il va encore en parler dans les années 50. Donc, en fait, il a suivi les meilleures années du jazz, quasiment. Et en tout cas, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1969. Donc, qu'est-ce qu'il reproche au jazz, exactement?
Bon, alors, la réponse la plus simple à ça est quand même de rappeler un fait historique. C'est que Adorno a eu accès au jazz sous la République de Weimar. Et que dans la République de Weimar, le jazz dont parle Adorno, notamment dans ses textes des années 30, c'est un jazz très particulier parce que c'est un espèce de, je reprends les termes d'Adorno, de produit bâtard entre le jazz venu des États-Unis et la musique viennoise de l'époque, c'est-à-dire dansante. Et il y a un très beau livre là, de Pascal Cohen-Avenel qui s'appelle « Quand on a du jazz, pas besoin de schnapps », que j'aime beaucoup, que je cite.
Ouais, le titre est très bon.
Ouais, il est bon, hein, le titre, il est super. Voilà. Et que je cite là-dedans parce qu'elle explique bien ça, à quel point il y a une réception de jazz en Allemagne qui est très particulière, c'est que du coup le jazz s'était coulé, hein, vraiment avec la musique viennoise allemande de l'époque, et en gros ça faisait danser les Allemands, et du coup c'était vraiment très fun au sortir de la Première Guerre mondiale. Voilà,
c'était une grande mode, en fait, ça marchait très fort.
Mais du coup, si tu veux, c'est bien, on est quand même dans un jazz là qui est blanc, hein, pour le dire, et puis qui est mélangé, enfin qui est vraiment un espèce de produit bâtard. Et donc Adorno a accès à ce jazz là quand même à la base, surtout encore une fois dans les années 30, quand il écrit dans les années 30. Donc du coup, il y a pas mal d'Adorniens qui ont résolu la question que je pose en disant, bon, bah, au fond, Adorno connaît rien au jazz d'autre que cette espèce de produit bâtard allemand, qui n'est en réalité pas du jazz, et donc c'est pour ça qu'il n'a rien compris. Moi, je veux bien, mais là où cette réponse ne me suffit pas, et que j'ai continué à travailler, c'est que en effet, Adorno continue à parler du jazz de la même manière. Dans des textes, je suis allée jusqu'à, j'ai repéré des choses, en 1967. Donc en 1967, on a déjà le free jazz. Enfin,
oui, tous les plus beaux albums de jazz sont sortis, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis, il a vécu aux États-Unis quand même pendant une dizaine d'années entre-temps. Donc, a priori, il a accès à autre chose. Donc, la réponse des Adorniens disant « Oui, bon, ben, il ne parle que du jazz allemand des années 20 », je veux bien quand il écrit en 33, quand il écrit en 67, je me dis, bon, c'est quand même, à un moment donné, prendre un peu Adorno pour un imbécile, quoi. Je ne crois pas qu'il soit un imbécile. Voilà. Donc voilà, la première réponse, qu'est-ce qu'il reproche au jazz ? C'est ça, c'est le fait d'être une pure musique, en fait, purement dansante, une musique pour le fun, voilà, qui serait...
une musique commerciale, en plus.
Une musique commerciale,
diffusion voilà. de masse, bien sûr. Grand public, donc...
Bien sûr. Voilà. Et là, tu touches à un autre point qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant, qui n'est pas que historique, et qu'effectivement, il y a un moment donné, Adorno est très connu pour sa critique de la musique populaire, popular music, et le jazz devient, cristallise un peu ce que c'est que, de manière générale, la musique populaire. À un moment donné, il y a des textes d'Adorno, on ne sait plus s'il parle de popular music, de jazz, c'est-à-dire voilà, le jazz représente tout la musique populaire, et donc effectivement, le problème d'Adorno, c'est aussi la manière dont le jazz est diffusé, et diffusé notamment à cette époque-là, à la radio, effectivement, et toujours de manière massive et du point de vue d'un pur divertissement. Enfin, il y a une dernière raison qui là aussi est très intéressante, mais on pourra peut-être développer après, qui est que moi j'ai essayé de comprendre quelle était la critique musicologique d'Adorno, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adorno était philosophe, sociologue et musicologue, et très intéressé, très mélomane, et puis très connaisseur, et puis lui-même pianiste, c'est-à-dire que la musique il connaît. Du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il reproche au jazz, véritablement, c'est-à-dire d'un point de vue musical. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans ces textes qui me semble intéressant, c'est qu'à chaque moment où il essaye de parler du jazz, très vite, il dérive et il se met à parler des jazzmen, de l'attitude des jazzmen, et notamment de la question, sous-entendu politique, du communautarisme des Afro-Américains qui essayent de se révolter contre le monde qui est le leur, dominé par l'Amérique blanche, les Américains blancs. Et du coup, il y a toujours cette espèce de court-circuit qui se passe, c'est qu'il se met à parler de musique, et puis très vite, il ne parle plus de musique. Il parle d'autre chose, et en fait, l'affaire, elle devient politique, et ça, je crois... sans qu'il en ait toujours conscience. Voilà, parce qu'il donne l'impression de parler du jazz, alors qu'en fait, il parle des jazzmen.
Je pense que Nietzsche aurait pu lui faire le reproche de se soucier plutôt des auditeurs et non pas des créateurs. C'est-à-dire qu'il voit du point de vue du public et pas du tout du point de vue des artistes.
Oui, mais la popular music, de manière générale, en fait, c'est un problème d'écoute. C'est un problème de diffusion et d'écoute. C'est ça qu'il dénonce. Mmh. Et d'ailleurs, là aussi, je me porte en faux comme contre... un contresens massif sur Adorno, que je continue à entendre, où sous couvert de l'élitisme adornien, la musique populaire, ce serait de la musique savante. Je commence à dire n'importe quoi. Que la musique qu'il critique...
L'absus
complètement. Non, que la musique populaire qu'il critique serait la musique du peuple, faite par le peuple, ou la musique folklorique. Or, il faut bien comprendre que chez Adorno, la popular music, c'est-à-dire celle qui est diffusée en masse, c'est celle-ci qui critique, concerne aussi la musique classique. C'est-à-dire que le problème d'Adorno, il se situe tellement au niveau de l'écoute qu'il y a un texte très fort où il dit « c'est insupportable lorsque Beethoven est diffusé à la radio » et le texte me fait beaucoup rire, il me dit « ce qui l'insupporte, c'est qu'on puisse écouter Beethoven en se brossant les dents ». Tu vois, c'est-à-dire faire de Beethoven une musique de pur divertissement. Son problème, comme tu dis très bien Adorno, c'est ça, c'est la diffusion massive, l'industrie culturelle, ce qu'on appelle l'industrie culturelle, notre manière d'écouter la musique comme un divertissement. Mais ça, du coup, toutes les musiques sont concernées par ce devenir musique populaire, ce devenir popular music, tu vois.
Mais c'est alors, ce qui me déroute encore plus, pour le coup, s'il y a bien une musique qui résiste à la réification, à sa fétichisation et à sa diffusion de masse, c'est bien le jazz. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que cette musique-là repose sur le live, sur l'improvisation, sur les jam sessions. On va entendre un morceau de musique tout à l'heure là, qui a été enregistré en live d'un artiste que tu aimes beaucoup. Donc c'est quand même étrange qu'ils mettent le jazz dans le même sac en fait que la musique pop.
Oui, mais parce que le jazz est né avec l'enregistrement. Il y a quelque chose là qui s'est fait de l'histoire du jazz, c'est que le jazz est quand même la première musique enregistrée, commercialisée, exportée. Donc il y a effectivement dans le début du jazz quelque chose qui va d'emblée avec la production massive, la diffusion massive et surtout mondiale. Ça c'est nouveau et ça c'est le jazz, le premier disque enregistré était un disque de jazz. Donc c'est pour ça qu'il symbolise. Il reste toujours cette épineuse question, c'est pourquoi jusqu'en 67... Adorno s'est arc-bouté là-dessus, effectivement. Et pourquoi il a refusé, moi je suis d'accord avec toi, d'écouter le jazz qu'il est devenu, en fait, par la suite, ce qu'il a dit. Voilà. Et puis l'autre question, encore une fois, politique, que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est quand même celle-ci, c'est qu'il y a des passages très intéressants, je crois, d'Adorno sur la question de la syncope, sur le fait qu'au fond, il réduit, alors il a cette tendance à réduire le jazz à la pure syncope, et il dit, ben la syncope, finalement, ça se prétend être quelque chose de complètement nouveau, mais c'est pas nouveau, et surtout, c'est pas assez déstabilisant. déstabilisant. Ça ne déstabilise pas assez la métrique habituelle, la norme musicale. Et comme ça ne déstabilise pas assez tout ça, ce n'est pas suffisant pour porter une soi-disant révolte des Afro-Américains.
Et c'est un faux contretemps, et c'est même pas une déstructuration du temps normal, du tempo classique.
Exactement. Ouais. Et après, voilà. Et du coup, y a une espèce d'impuissance du jazz à... un manque de radicalité, en fait, du jazz. Mmh. Mais ce qui n'est pas le cas, par contre, pour le jazz, évidemment, si on pense au free jazz, on se dit que c'est délirant, parce qu'entre-temps, évidemment, le jazz a avancé, et Adorno, non. Alors ça reste effectivement un mystère.
Alors, on va écouter un premier morceau de musique d'un artiste que tu aimes beaucoup, que tu as vu sur scène à la Nouvelle-Orléans,
tout
je crois.
Tout à fait.
Voilà, je te laisse le présenter, et on va écouter le morceau.
Oui,
il s'appelle comment ?
Alors, il s'appelle Glenn David Andrews. Je l'ai découvert effectivement lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. J'étais très très contente de ce concert parce que peut-être un petit mot sur comment ça se passe à Nouvelle-Orléans. Je suis restée quand même 2 mois là-bas. Et les 2 premières semaines, je cherchais à écouter un peu du vrai jazz à Nouvelle-Orléans. Et les 2 premières semaines, j'étais moi-même touriste. Donc, du coup, j'étais dans les bars à touristes. Et j'ai constaté à quel point il y avait des concerts de musiciens blancs adressés à un public blanc ou de musiciens noirs. Indiqué pour un public blanc. Mais à rechercher, évidemment, moi j'étais curieuse, j'avais envie d'avoir un concert de musiciens noirs avec un public noir. Quoi. Ça fait toujours un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire, d'avoir le musicien noir avec un public 100% blanc à la Nouvelle-Orléans, etc. Et bah, du coup, ça m'a pris un peu de temps. Et ce premier concert que j'ai découvert, c'est Glenn David Andrews, tu vas passer le morceau. C'était la première fois où je me suis retrouvée dans un tout petit bar. J'étais effectivement la seule blanche. Il y avait une ambiance complètement incroyable. Ça s'entend, je crois, dans le morceau. Et puis l'autre chose, et pour ça qu'aussi j'ai choisi ce morceau-là à diffuser, c'est que quand je suis repartie à Nouvelle-Orléans, j'avais fait des petits enregistrements sauvages avec un petit truc pour enregistrer. Évidemment, non seulement j'avais pas le droit, mais le son est pourri. Donc en fait, c'était un peu des cartes postales musicales, mais j'ai rien pu en faire. J'ai acheté plein de disques. En partant, en me disant, voilà, il faut que je reparte avec plein de disques. La plupart des disques que j'ai achetés, quand je les ai réécoutés ici, à la maison, j'étais hyper déçue parce qu'il n'y avait plus la dimension live de ce que j'avais découvert des concerts de Nouvelle-Orléans. C'était passé par une telle surproduction que ça lissait complètement, tu vois, la musique. Et du coup, je perdais complètement ce que j'avais entendu là-bas.
Bah alors, on va l'écouter alors.
Et bien alors, ouais. Un dernier détail, c'est que justement, cet album de Glenn David Andrews, c'est un live. C'est vraiment de cette époque-là. Et précisément, c'est presque le seul album où, quand je l'ai ramené, c'est très, très proche de ce que j'ai entendu en live.
On écoute alors.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Ball jumping in heaven, pop! Down and down, 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 yeah. Down in Trimmy, down in Trimmy. Y'all love New Orleans, make some goddamn noise, y'all. People sashay past my step, by my house, in front of my door, in front of my door, yeah. Put your hands up to all. Now in the trend, hey, it's me, and my big day, we're all gone away. Everybody put your hands up and sing.
Come on, y'all. White folks too. Everybody go crazy and scream.
Donc, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et nous parlons de jazz. Et je profite de prendre l'antenne pour remercier Enrico Mastro Giovanni qui assure la technique. Merci à toi, Enrico. À toi, Frédéric.
Allegre FM 93.1.
Alors, Johanna Desplat-Roger, j'étais très surpris quand tu m'as envoyé ce morceau, de voir que c'était finalement un jazz qui était un peu old school. Alors, ça swing à mort, mais c'est très traditionnel, c'est déjà un peu, oui, traditionnel, quoi, tout à fait.
Ah, c'est très drôle que tu aies cette réaction-là. Je vous remercie, je remercie Ali Greffen de diffuser ce morceau, parce que c'était très important pour moi, je crois, dans mon propos. Très précisément, moi, je crois, c'est ça qui m'a plu dans cet album et puis dans la musique de Gladavine Andrews, c'est que, contrairement à toi, je crois qu'on ne sait pas tellement où on se trouve. C'est-à-dire que les puristes de jazz te diraient que ce n'est pas du jazz. Et du reste, d'ailleurs, je l'ai testé parce que j'ai déjà fait écouter ça lors de mon séminaire de recherche auquel j'enseignais la philosophie. Et dedans, il y avait à ce moment-là un musicologue émérite, très connu, spécialiste de jazz, qui m'a dit « Mais ce n'est pas du jazz, Johanna, c'est de la variété noire ». Alors, tu entends en plus dans variété noire, bon, tout l'aspect très péjoratif de ce que ça implique, voilà. Et alors, toi, tu as entendu quelque chose de très traditionnel, et je te remercie pour ça, parce que...
C'est le swing, surtout, c'est ouais. Swing à mort.
Et puis, tu sais, ce qui est aussi traditionnel, c'est que... en fait, il est classé plutôt en R&B, hein. C'est plutôt du R&B, soul, on ne sait pas trop, funk, c'est aussi très funk. Et en même temps, on entend, alors dans d'autres morceaux, peut-être dans celui-là, la dimension très gospel aussi. Ouais. Mais par contre, ce qui peut-être a fait penser à ça, c'est aussi que... c'est quelqu'un qui vient des brass bands. Les brass bands, tu sais, c'est ces fanfares de rue. Alors là, les cuivres derrière sont très claires, sont quelque chose qui vient de là, des parades, des grandes parades de Nouvelle-Orléans.
Ça se danse.
Ça se danse, et ça, c'est effectivement quelque chose de traditionnel. Et ça permet du coup de dire quelque chose, c'est que moi, ce qui m'a bouleversée à Nouvelle-Orléans, c'est de voir que, justement, contrairement à ce que j'en pensais moi-même, on n'est pas resté dans le jazz New Orleans. C'est-à-dire que le jazz New Orleans, cette espèce de vieux jazz qui vient, oui, des parades dansantes, des brass bands, ce jazz de rue, il s'est complètement transformé avec les musiques actuelles, effectivement le R&B, la soul. Et tout ça a fait un espèce de gros mélange comme ça. Et on se retrouve au concert là, de Gladavine Andrews à être dans, enfin en tout cas moi je suis convaincue de ça, dans l'incapacité de classifier sa musique. C'est-à-dire que suivant le morceau, voilà, est-ce que je mets ça dans le jazz, dans R&B, dans soul, dans gospel ou dans ce que tu veux, tu vois, c'est absolument impossible.
Pour moi, c'est le rythme en fait, c'est le fil rouge, c'est le rythme.
Ben voilà, mais tu vois,
tout est dans le rythme.
Alors qu'à l'inverse, moi, on m'a dit, ce n'est pas du jazz, c'est de la variété. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, on s'en fiche des étiquettes. En fait,
moi,
la question de savoir est-ce que c'est du jazz, etc. Évidemment qu'on n'en a rien à faire. Mais ça dit quelque chose d'intéressant pour moi sur, en tout cas, ce rapport à la musique qui est encore présent à Nouvelle-Orléans et qui est un rapport. D'un jazz qui s'écoute toujours avec le corps, toujours par la danse, de manière extrêmement très dansée. Et puis moi, je parle dans mon livre d'une écoute bruyante. Écoute bruyante parce que ça m'a frappé à quel point là-bas, le jazz s'écoute eh bien, en buvant un café, en criant. Là, on entend le public dans le morceau. Voilà, le chanteur demande des réponses. Voilà, le public est en furie. Et que la manière de respecter une musique là-bas, se fait voilà, par ces signes qui sont bruyants, voilà, et puis par trinquer, danser, boire un coup, discuter avec son voisin. Et ça montre à quel point ben, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait à l'intérieur du jazz, une espèce de division interne hein, avec ce jazz qu'on écoute par contre en France et qui est maintenant le jazz majoritaire en France, qu'on écoute dans des salles très prestigieuses, avec un public très très bien, très sage.
Très silencieux, qui n'applaudit même pas pendant les solos ou après les solos.
Oui, ou alors il faut applaudir au bon endroit.
Bon
c'est-à-dire
moment,
vraiment,
bon
voilà, faut bien savoir quand est-ce qu'elle finit le solo pour applaudir, voilà, avec des codes comme ça qui sont quand même ceux de la musique savante et qui n'ont aucun sens à Nouvelle-Orléans, encore aujourd'hui.
Alors, justement, Adorno, tu parlais, tu étais donc la seule blanche dans un club de noirs avec des musiciens noirs. Est-ce qu'on peut poser cette question, est-ce qu'elle est légitime de se demander si c'est pas ça le problème d'Adorno, le problème de la musique noire et la musique des Noirs, c'est ça qui le dérange finalement peut-être au fond. Est-ce que cette question est pertinente?
Oui, bah cette question évidemment qu'elle a lieu d'être, elle est très compliquée, elle est surtout très douloureuse hein, pour les Adorniens comme moi, parce que je crois que c'est pas satisfaisant de répondre à cette question-là aussi en disant bon, Adorno en plus est élitiste et raciste. Allons-y, je veux dire, à un moment donné on peut faire ça, mais je crois que c'est pas le plus intéressant. Après... Pour autant, il y a quelque chose de problématique dans la position d'Adorno qui renvoie à la question, effectivement, de son rapport aux Afro-Américains, mais qui, à mon avis, doit être posé non pas en termes basiques de pur racisme, etc., mais d'une vraie question chez Adorno qui se pose, qui est le rapport, la possibilité pour une communauté de se révolter face à la société l'industrie culturelle, etc. C'est-à-dire que chez Adorno, Adorno très clairement ne croit pas du tout à cette idée que les Afro-Américains en tant que communauté seraient une communauté plus souffrante que les autres individus. Tu vois, il y a une pensée chez Adorno de la souffrance de l'individu en tant qu'individu au sein d'une société de tout ce qu'il appelle voilà, l'industrie culturelle, la rationalisation, tout ça qui met en péril l'individu et qui, de certaine manière, nous concerne absolument tous. Voilà. Donc c'est ça, je crois, qui l'empêche en fait, du tout, enfin, de prendre en considération et de prendre au sérieux le fait qu'il puisse y avoir dans la communauté afro-américaine quelque chose de l'ordre d'une révolte communautaire, de quelque chose de communautaire.
Ouais, il est contre l'idée d'une concurrence victimaire entre communautés, par
exactement,
exemple.
Exactement, ouais.
Rien de plus étranger pour lui.
C'est ça, il ne défend pas justement, et ça tu as très bien compris, c'est parfait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il ne défend pas non plus une position individualiste, ce n'est pas non plus l'individu tout seul, parce que l'individu pour Adorno est petit bourgeois, de son par définition, mais ces questions politiques ne peuvent pas être communautaires. C'est-à-dire, effectivement, c'est les individus dans son ensemble, c'est quelque chose à part de l'individu en nous qui est en souffrance par l'industrie culturelle, par ceux qui décident, hein, ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir, etc. Et du coup, voilà, ça peut pas être mis en... Il n'y a pas une mise en concurrence possible des souffrances, c'est exactement ça. Et ça, je crois que ça le gêne et ça l'empêche hein, vraiment de penser la spécificité, la situation des Afro-Américains, qu'il ne veut pas voir, en effet, hein, et qu'il refuse. Voilà. Après, il se défend très très mal lui-même. De l'accusation de racisme parce qu'il y a déjà assez vite en fait on lui est tombé dessus hein, là-dessus sur cette question-là et il répond cette réponse très maladroite en disant mais moi-même je suis un juif chassé par les terres et donc du coup je ne peux pas être accusé de racisme. Alors, évidemment c'est comme réponse ça ne suffit pas.
Oui c'est le coup je suis raciste, j'ai un ami noir. Enfin,
c'est, oui c'est ça, peu... c'est très très maladroit. Oui.
Il y a quelque chose de très bizarre aussi dans ces accusations, c'est la dimension sexuelle. Qui est une véritable, c'est caricatural.
Ce qu'Adorno dit, oui, sur le jazz, il y a un réductionnisme sexuel, du freudisme...
Du freudisme vulgaire.
Ouais, ouais.
Et c'est quand même, ça épouse les préjugés qu'on a sur les Noirs.
Oui, oui, non, mais tout ça n'est pas faux. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéressait de penser, c'est d'où ça vient et pourquoi. Parce que là aussi, la question... de la sexualité... parce que c'est évidemment...
Parce que dans les pamphlets antisémites en France... La même accusation est faite. Il y a quelque chose entre le racisme et la sexualité qui est dialectiquement assez fort. C'est une, il y a toujours cette idée de enfin, et puis de la pureté de la race, etc. Et on pourrait aussi parler, mais bon, je me dis que je ne parlerai pas, mais on pourrait aussi parler de la pureté du genre, qui est un non-sens total, y compris sur la variété allemande du début, là. Parce que s'il y a un genre qui n'est pas pur, c'est bien celui-là, en fait, hein, puisqu'il y a de la valse, il y a du gospel, etc. Aux États-Unis, je veux dire.
Si je peux faire l'avocat du diable, j'assume hein, cette position.
Ouais, bah,
parce que ça dépend qui me parle. C'est-à-dire, ouais, voilà, mais là, je vais faire l'avocat du diable. C'est que moi, ce que je continue à penser d'intéressant dans la critique d'Adorno, c'est que, oui, bien sûr, hein, il y a cette dimension sexuelle, mais encore une fois, cette dimension sexuelle, elle est liée chez Adorno avec cette idée d'une musique qui est faite pour divertir. Et elle est liée à la question de la danse. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, le jazz à l'époque était quand même une musique qui se dansait en couple. Et donc, avec une espèce de code comme ça, sexy, évidemment, de parade, amoureuse, etc. Et encore une fois, la question, elle est politique chez Adorno, elle n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que si on veut c'est même pas se révolter, c'est le terme d'Adorno, je crois, c'est résister. Si on veut résister aux normes dominantes de la société, on ne peut pas se mettre à danser. On ne peut pas légèrement se mettre à danser, faire cette parade amoureuse, etc. Ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une urgence dans la pensée d'Adorno qui est quand même toujours de résister à cette espèce de rouleau compresseur de l'industrie culturelle, de ce qui est en train de venir dans eh bien, à la fois dans la, ce qu'il appelle la vieille Europe, qu'il a effectivement parti sur le coup d'exil, dont il a dû s'exiler, et avec ce truc mainstream des États-Unis, de Hollywood, etc. Comment on résiste au rouleau compresseur ? Pour Adorno, je répète, ça ne va pas suffire.
Et donc, la vraie critique qu'on pourrait en faire, c'est sur l'élitisme. Donc, il occupe des positions élitaires, donc on pourrait s'armer du peuple pour essayer de défaire ses positions élitaires. C'est-à-dire de dire du bien de l'industrie culturelle et de dire de l'importance que l'industrie culturelle a dans nos vies. Nos vies sont totalement façonnées par l'industrie culturelle et Adorno n'est qu'un petit snob qui vient nous faire la morale.
Eh bien, je ne crois pas, justement. Ça, c'est la caricature qu'on en fait. C'est contre ça que je me porte en faux. Je ne crois pas du tout. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un élitisme chez Adorno, mais là aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'Adorno est un marxiste non révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à la révolution. Et pourquoi il ne croit pas à la révolution ? Il ne croit pas à la révolution parce que pour lui, le phénomène de masse, la foule, elle est potentiellement fasciste. Elle est fascisante. Et donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il a raison, je dis je comprends le problème, c'est-à-dire une foule ne pourra pas... Voilà, la foule en délire, pour lui, c'est le germe du fascisme. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire presque de manière logique, si on veut, je disais tout à l'heure, comme ce n'est pas la foule qui peut faire advenir la révolution, si on veut résister, c'est ça le terme d'Adorno, si on veut résister, ça peut être qu'en ayant des attitudes, et notamment musicales, qui soient préservées de l'industrie culturelle, qui soient un peu des îlots de résistance, c'est un peu ça, des bulles de résistance, un endroit où l'art est capable d'exprimer ce qu'il appelle la blessure d'individu. Et donc préserver de cette industrie culturelle, qui est encore une fois un rouleau compresseur. Et donc si on veut, forcément du coup il en devient élitiste, mais il faut comprendre pourquoi. Si on veut résister à l'industrie culturelle, eh bien on ne peut pas faire une musique qui sera diffusée de manière large à la radio. Forcément, on doit faire une musique qui résiste à ça. Et c'est pour ça qu'Adorno est ce penseur de Schoenberg, de Berg, de Mahler, parce qu'il faut comprendre que les musiques qu'il défend sont des musiques qui ne sont pas diffusables de manière massive. Voilà. Et en cela, elle résiste à l'industrie culturelle. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a raison. Alors mais je dis que voilà, mais c'est là, le problème est intéressant.
C'est là que dans ton livre, tu fais une espèce de prise de judo à Adorno. Mm-hmm. C'est que tu retournes sa force contre lui-même et tu t'en sers pour dire que finalement, le free jazz est éminemment politique en tant que forme musicale. Exclusivement en tant que forme musicale et non pas en tant que message politique. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, tu peux développer un peu cette idée en quoi le free jazz est évidemment d'une certaine manière adornien ?
Oui, bon alors, évidemment, c'est
je pousse le paradoxe un peu loin.
Oui, c'est ça. Hein, c'était vraiment une prise de judo, puis il en retourne un peu. C'est Adorno contre lui-même. Mais disons que je crois qu'Adorno permet quelque chose qui était très important dans mon travail, qui est très important pour moi, c'est justement de poser la question dans des termes importants, c'est-à-dire en quoi le free jazz est politique ? C'est-à-dire en quoi le free jazz est une musique politique ? Indépendamment du fait du message porté par les musiciens eux-mêmes, par les individus. C'est-à-dire, c'est quoi pour une musique d'être politique ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est juste tel musicien, justement, il est passé à la radio et il a appelé à aller manifester, se mettre en grève jeudi contre la réforme des retraites ? Moi, ça, évidemment, c'est un engagement politique du musicien, mais ça ne dit rien de la musique elle-même. C'est-à-dire, je peux avoir un discours très politisé et faire une musique complètement normée. Par les codes de la norme.
Ça s'est beaucoup entendu.
On est bien d'accord. Eh ben oui, mais justement, je crois que la philosophie n'a pas résolu cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une politique, une musique en tant que telle, la musique en tant que telle, qu'est-ce qu'elle a de politique ? Eh bien, Adorno permet de poser cette question-là. Parce que lui, il réfléchit à ça. C'est-à-dire, il réfléchit à ça, alors encore une fois, avec les musiques qu'il défend, c'est-à-dire la dimension, par exemple, politique de la nouvelle musique, ce qu'on appelle la nouvelle musique, et plus précisément la musique de Berg ou de Schoenberg, elle est capable de résister à la société administrée. Pourquoi elle résiste ? Parce que justement, si on prend l'exemple de Schoenberg, la musique atonale, en refusant de continuer à faire une musique tonale telle qu'on a l'habitude de l'entendre, voilà, eh bien, elle déconstruit une forme musicale qui était la forme dominante. Et elle crée quelque chose de complètement nouveau et qui est en tension et qui, d'une certaine manière, remet en question, dialectiquement, dira Adorno, la musique telle qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Donc, la musique de Schoenberg, là-dessus, elle est, pour Adorno, capable de résister à la société administrée. Je crois que le free jazz aussi, on est d'accord. Alors ça, Adorno ne l'a pas pensé, mais en tout cas, Adorno, il faut quand même lui rendre ça, c'est qu'il permet de penser ça, c'est-à-dire quel rapport on peut mettre entre une musique et la société en général, et qu'est-ce que ça veut dire que résister à la société dans laquelle nous sommes par la musique.
Et alors là, on arrive à un concept très intéressant chez Adorno, qui est la notion d'œuvre autonome, et c'est un rapport au temps. C'est là où, parce que la vieille distinction entre musique savante et musique populaire, bon, elle est éculée, elle nous assomme et elle n'a plus lieu d'être, on le sait maintenant. Et donc, il y a la musique haute, la musique basse, la musique sérieuse, la musique de divertissement, etc., etc. Lui, d'une certaine manière, il permet d'en sortir parce qu'il pose une autre position qui est beaucoup plus pertinente, qui est celle du rapport au temps. Alors, hélas, il reproche au jazz d'être une musique cyclique, et alors qu'elle devrait être une musique qui serait dans un rapport conflictuel et dialectique. Alors, tu peux expliquer un peu cette notion chez Adorno d'œuvre autonome et hétéronome ?
Oui, alors il y a l'œuvre autonome et hétéronome, et puis aussi cette histoire de musique brisée qui est très intéressante. Oui, alors l'œuvre hétéronome, c'est assez simple. C'est la musique hétéronome, c'est celle justement qui est la complice de l'industrie culturelle, et donc de la société administrée. C'est celle qui s'est rendue complice et donc c'est celle qui est diffusée très largement de manière massive à la radio et c'est celle qui n'est pas capable de résister. L'œuvre autonome, c'est précisément celle qui est capable de résister. Comment elle résiste ? Encore une fois, politiquement, elle ne résiste pas par un message qu'elle fait passer. C'est-à-dire que là aussi, Adorno est assez sévère de manière intéressante, je crois, avec ce qu'on appelle l'art engagé. L'art qui dit quelque chose, quoi, qui a un message à faire passer. Adorno va dire, mais ça, ce message, en fait... Il va décrire ce message comme des vains bêlements qui sera complètement impuissant, là aussi, encore une fois, au rouleau compresseur qu'il faut, voilà, qui nous écrase à tous les niveaux. Et donc, du coup, la musique autonome, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est effectivement celle qui introduit ce qu'il appelle un arrêt dialectique du temps. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, par rapport à la musique de Schoenberg, mais je crois que l'exemple de Berg est encore plus saisissant. Chez Adorno, c'est que si on prend l'exemple de Berg, la musique de Berg pour Adorno, elle est capable de résister. Et donc, elle est la musique autonome par excellence. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois radicalement moderne parce que c'est une musique atonale, qui rompt avec le principe de tonalité, et elle est radicalement populaire. Pourquoi ? Parce qu'elle contient ce qu'il appelle des éléments de kitsch. Et notamment, on pense, alors il parle beaucoup de la pièce Loulou de Berg, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est, moi, du coup, Adorno m'a permis de découvrir cette pièce que je ne connaissais pas. Le personnage de Loulou, il est kitsch en effet, il est kitsch, tous ses traits populaires, c'est une femme un peu mangeuse d'hommes, tout ça, enfin bon, tous ses traits sont vraiment caricaturés. Et bien, sa dimension kitsch exprime quelque chose du populaire, mais au sens noble chez Adorno, c'est-à-dire de l'authentiquement populaire, ce qui résiste véritablement à... de l'individu qui a été noyé sous un conformisme ambiant, etc. Et bien donc la musique capable de résister pour Adorno, c'est celle qui est radicalement moderne et radicalement populaire. Voilà. Et bien ça, effectivement, je pense que une certaine partie du jazz réussit à l'accomplir, mais il faut comprendre que du point de vue d'Adorno, le jazz des années 20-30, le swing, tout ça, est trop une musique de compromis. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez radicale. La rupture qu'elle propose n'est pas suffisamment radicale pour tenir comme ça cette tension entre quelque chose de radicalement... Il y a cette idée de radicalité quand même chez Adorno.
Et pour toi, le free jazz touche à cette radicalité-là ?
Oui, alors je vais jusqu'à affirmer que le free jazz, d'une manière, pourrait incarner... Adorno ne serait pas d'accord, ou enfin, qu'importe. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Ce qu'il appelle... cette musique brisée, c'est-à-dire cette musique en tension entre quelque chose qui est d'une totale modernité, évidemment, et aussi de quelque chose qui a à voir avec les origines mêmes du jazz. C'est-à-dire que dans le free jazz, il y a encore jazz, et évidemment, les grands joueurs de free jazz, d'ailleurs, ont toujours quand même dans leur jeu quelque chose qui revient au premier jazz. C'est-à-dire que c'est à la fois du premier jazz et en même temps, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est les deux en même temps. Et c'est ça que Adorno appelle la musique brisée. Une musique brisée, c'est celle qui est capable de contenir en elle-même l'ancien et le nouveau, et donc le nouveau comme critique de l'ancien. Voilà. Comme rapport critique à la manière dont on faisait de la musique jusqu'à présent. Le free jazz fait ça.
Alors, si tu veux bien, on va écouter un dernier morceau de musique. Ouais. Il y a peut-être un rapport avec ton propos. Ouais. On va écouter un morceau. C'est Miles Davis qui est en concert.
Alors, c'est pas du free jazz, du coup. Faut peut-être
non, c'est pas, non, non, voilà, c'est pas c'est du free ça. Jazz du tout. mais il y a Monk qui est au piano derrière. Ouais. Et donc, voilà, on va écouter ce dernier morceau. Alors Johanna, qu'est-ce qui se passe dans ce morceau? Tu peux nous expliquer un peu?
The Man I Love, c'est un enregistrement du groupe Miles Davis and the Modern Jazz Giants en 1954, et cet extrait m'amuse beaucoup parce qu'on entend le jeu de piano de Monk, et Monk a ceci de particulier lorsqu'il joue, c'est de jouer beaucoup avec les silences, d'introduire des silences, et là dans cet extrait c'est très frappant, c'est que lui-même commence un solo et il s'arrête mais le silence est un peu suspendu, c'est long, et c'est tellement long que Miles Davis intervient tout d'un coup avec un truc presque militaire, là, un espèce de truc comme ça, comme un rappel à l'ordre. Et du coup, alors la légende dit que Miles Davis aurait pensé que Monk s'était juste perdu dans la grille et qu'il savait plus où il en était, et c'est pour ça qu'il jouait plus. Alors que, évidemment, a priori, c'est pas du tout ça. Et a priori, c'était voulu par Monk qui voulait déstructurer.
Oui, surtout que c'est amené. Enfin, on comprend, oui. C'est progressif, c'est silence qui s'installe. Il n'arrive pas d'un coup, c'est annoncé.
C'est ça. Mais du coup, voilà, il a un jeu, Monk particulier, qui est très déstabilisateur pour les personnes qui l'accompagnent. Et du coup, à partir de là, d'ailleurs, Miles Davis dira que pendant ses propres solos, il continuera à jouer avec Monk, mais dira pendant ses propres solos, il demandera à Monk de ne plus jouer, de ne plus l'accompagner, tellement ça le déstabilisait. Donc c'est quand même, voilà. Ça dit quelque chose. Et donc, Monk m'a intéressé pour venir à Adorno, effectivement, là où il y a quelque chose d'assez adornien chez Monk. Hein. Moi, je crois, en tout cas, au sens où peut-être que Monk accomplit quelque chose du point de vue de la radicalité dont je parlais tout à l'heure, qui est d'introduire quelque chose d'un point de vue rythmique de plus radical que la simple syncope. Hein. Et donc, il y a dans ce jeu rythmique, là, quelque chose qui se rapprocherait de la tonalité, mais cette fois du point de vue rythmique. C'est-à-dire de vraiment... de modifier le code de jeu traditionnel, de comment on accompagne un morceau de jazz, comment on joue, etc. Et du coup, c'est ça qui me semble adornien, parce que pour autant, on ne pourrait pas dire que Monk n'est pas à la fois... Il introduit cette rupture, en même temps, c'est clairement du jazz. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est indéniable. Il s'inscrit dans cette tradition, tout en la renouvelant de manière assez radicale. Eh bien, c'est ça, la musique brisée chez Adorno. La musique brisée, la musique qui porte, la musique qui résiste à la société administrée, c'est celle qui contredit la manière dont on faisait la musique avant. C'est-à-dire la manière dont, là, par exemple, Monk contredit la manière traditionnelle d'accompagner des musiciens, tout en restant dans ce rapport dialectique à la tradition. C'est-à-dire on n'est pas ailleurs, on ne fait pas du complètement nouveau. On est bien là dans du jazz, mais dans du jazz qui est complètement renouvelé de manière dialectique avec la tradition du jazz.
Merci beaucoup, Johanna Desplat-Roger, de nous avoir parlé de ton livre. Donc, essai sur une déroute philosophique, le jazz en respect. Aux éditions MF, et je vais rendre la parole à Yves Tanré.
Et donc j'ai vu Thelonious Monk un dimanche après-midi quand j'avais 17 ans à Bruxelles, et c'est vrai que ça faisait musique savante pour moi qui étais un jeune on va dire prolétaire, mais lumpen prolétaire. C'était assez impressionnant, c'était très abstrait en fait, c'était absolument incompréhensible, et c'était un dimanche après-midi avec un public clairsemé quand même, dans un petit club à Bruxelles, et c'était vraiment abstrait dans le sens où on découvre un jour des choses abstraites dans la vie par rapport à quelque chose qui est concret comme la chair, comme l'existence du monde. Là, ça faisait très intellectuel, ça faisait très lointain, très... Il n'y avait pas de balancement, de rythme, de choses à laquelle s'accrocher facilement. On était dans quelque chose de très surprenant. Bon, je dois rendre l'antenne parce que c'est Cause Commune qui va prendre le relais. Et donc, nous passons l'antenne à Cause Commune. Merci encore à toi, Enrico Mastro Giovanni, de ton assurance de l'autre côté de la vitre. C'était La vie est un roman sur Allegri FM 93.1. À la semaine prochaine.
Merci.
Aligre FM 93.1.